Pour savoir tout, tout sur le sport, voici Olivier Beauregard.
Et on va le joindre tout de suite pour faire le tour de ce qui a marqué sa dernière semaine sportive. Olivier, bonjour.
Salut.
On recule pas beaucoup dans le temps. En fait, on commence par un truc qui s'est passé aujourd'hui, qui s'est conclu aujourd'hui. C'est cette signature avec l'attaquant Brady Tkachuk. Une coquette somme pour les 7 prochaines années.
Écoute, plus de 57 millions de dollars. 57 millions de dollars sur 7 ans. C'est un très, très gros contrat pour un jeune joueur, mais c'est un bon contrat dans le sens où, présentement, puis on en a parlé il y a quelques... Je pense que c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines, là, de justement la situation de Brady Tkachuk contractuelle qui a fait, mettons, couler énormément d'encre pendant le camp d'entraînement. On s'attendait justement à voir Brady Tkachuk au camp d'entraînement, il n'a pas signé, mais tu sais, quand on regarde le contrat qui lui a été accordé aujourd'hui, là, c'est ce qu'on voit de plus en plus chez les jeunes joueurs. Les contrats transitoires n'existent pratiquement plus. C'est peut-être au grand bonheur des joueurs, puis peut-être au grand malheur des équipes, là, parce qu'on aurait aimé ça être en mesure encore de donner des contrats de 3 ans à une valeur moindre pour s'assurer aussi que le joueur ne soit pas seulement que l'énergie du début d'un contrat d'entrée. Tu comprends, Sébastien, il y a des joueurs qui, après 3 saisons, là, sont plus l'ombre d'eux-mêmes et par la suite sont plus capables nécessairement de suivre le rythme. Si on met un terme à leur carrière ou on les envoie dans la Ligue américaine, on se rend compte que finalement, ça n'aura jamais été des joueurs d'impact dans la Ligue nationale. Alors, c'est un pari qui est risqué, mais moi, je pense que ce qui a fait débloquer le contrat de Brady Tkachuk, il y a plusieurs choses. C'est que la saison des Sénateurs débute. C'est la saison de la Ligue nationale de hockey est débutée cette semaine. Mais je pense que ce qui est intéressant dans le cas de Brady Tkachuk, c'est que on a été en mesure de regarder ce que le Canadien a fait avec Nick Suzuki. Nick Suzuki, là, cette semaine, lui a signé un contrat de 8 ans d'une valeur de 63 millions. Là, je dis ça vite.
Ouais, là, mais... c'est ça, quelque chose comme ça. Là.
Ouais. Exact. Alors, je pense qu'on s'est beaucoup basé sur ce que Nick Suzuki a reçu comme contrat pour attribuer un contrat à Brady Tkachuk. Tu sais, ça, là, c'est quasiment une bonne nouvelle pour Brady Tkachuk parce que ce contrat-là qui est attribué à Nick Suzuki, ben ça fait en sorte que le clan Tkachuk peut dire « Écoutez, on peut pas aller en bas de ça. On peut pas aller moindre ça parce que Brady Tkachuk a plus d'expérience dans la Ligue nationale que Nick Suzuki. Et Brady Tkachuk fait partie des leaders de l'équipe. Tu sais, Nick Suzuki, oui, là, ça sent bien, mais il y a encore un noyau fort, tandis que chez les Sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe qui est jeune. On n'avait pas le luxe de se passer d'un Brady Tkachuk. Tu sais, on parle déjà de lui comme le futur capitaine de l'équipe. Je pense qu'en solidifiant un contrat de cette saison, ça peut faire en sorte que les choses débloquent de ce côté-là. Mais c'est une excellente nouvelle. Moi, je suis content. Mais, tu sais, ce qu'on va se rappeler, Sébastien, c'est que les Sénateurs, encore une fois, n'ont pas été capables de régler ça. On a encore une fois amené le côté négatif de cette histoire-là. C'est dommage parce que tout le monde se rappelle que Brady Tkachuk a dû attendre, a dû rater le camp d'entraînement au complet avant de pouvoir s'amener à Ottawa. Alors, tu sais, c'est pas le même que tu traites tes joueurs vedettes, malheureusement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une entente à long terme maintenant avec Tkachuk.
Sinon, ben là, j'ai le goût de dire les années se suivent et se ressemblent. Dès la première défaite du Canadien à l'automne, c'est la panique. Est-ce qu'on doit paniquer, Olivier, après cette première défaite hier?
Ben, soit où ça s'est terminé 2-1 hier.
Ça s'est terminé 2-1, oui.
Selon ce que je lis, selon ce que j'entends, ça s'est terminé. C'est comme si ça s'était terminé 12-0. Là. Canadien a perdu hier, oui, c'est vrai. Le Canadien n'a pas été opportuniste en avantage numérique. En 5-3, entre autres, on n'a pas été en mesure d'aller chercher ce fameux but-là pour égaliser la marque. C'est vrai. Mais le Canadien, c'est son premier match de la saison. Et le Canadien a plusieurs joueurs, plusieurs éléments de blessés dans sa formation. C'est sûr que le Canadien n'a pas une équipe solide pour, disons, à l'image du Lightning de Tampa Bay, mais en même temps, le bouton panique, il est trop facile. Là, hier, là, le Canadien a quand même joué un bon match. Ça n'a pas été parfait, mais c'est rarement parfait lors du premier match de la saison régulière dans n'importe quelle ligue, dans n'importe quelle catégorie. Il faut leur donner un temps. S'il vous plaît, calmez-vous. Là. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que présentement, bon, il te manque Carey Price, il te manque Mike Hoffman, entre autres, là, pour ne donner que ceux-là, mais il te manque Cole Byron, il te manque Shea Weber, il te manque des éléments importants de ta formation. Là, ce que le Canadien a fait hier, c'est contre une des équipes qui est supposée de gagner la Coupe depuis les 3 dernières années, ont été capables d'amener ça 2-1. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer. Laissons le Canadien faire son travail, puis ce soir, ça va être intéressant, là. T'affrontes une équipe un peu plus affaiblie, une équipe comme les Sabres de Buffalo qui va nulle part, là, autant dans les bureaux que sur la glace. Alors, moi, je pense que le Canadien, ce soir, pourra s'en prendre plus d'un. Mais tu sais, on parlait l'autre jour d'être moins fort sur la critique, d'être moins alarmiste ben je pense que les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent. Puis hier, là, encore une fois, ça a pris une défaite de 2-1 pour que ça soit la fin du monde. Puis le Canadien ne fera pas les séries, puis ci, puis ça. Rappelez-vous, l'an passé, il n'y a pas personne qui voyait le Canadien en série de la Coupe Stanley. Il n'y a pas personne qui voyait surtout pas en finale de la Coupe Stanley. Alors, on peut se calmer un peu et regarder ce que ça va donner. Ce soir, moi, je pense que ça risque d'être un très bon match contre les Sabres de Buffalo.
Donc, on se prend une respiration, on s'accote puis on relaxe, on profite du spectacle.
Ah, c'est ça, exact. C'est rien que le match 2.
Parlons football. Revenons sur ce match entre les Alouettes et le Rouge et Noir. Ça avait lieu ce lundi.
Oui, exact. Et ben, ça a été le match de la médiocrité. Il y en a qui vont dire que ça a été un match défensif fantastique. Moi, je pense que c'est le match de la médiocrité. C'est deux équipes qui vont nulle part, malheureusement. Je vais commencer avec les Alouettes de Montréal qui avaient tellement fait de promesses à leur partie, avec un Vernon Adams Jr. Qui était censé être le bon corps arrière. Mais finalement, on avait trouvé le corps arrière pour remplacer Anthony Calvillo. Écoute, je veux rien lui enlever présentement, là, mais moi, depuis le début de la saison, Vernon Adams Jr. m'a pas montré que c'était l'homme de la situation, malheureusement. Il a connu une bonne saison avant l'année pandémie, mais présentement, là, je suis plus certain que c'est ce gars-là qui va ramener une coupe chez les Alouettes. Et ça m'inquiète largement. Là, il est blessé. On verra ce que sa situation va lui donner d'ici la fin du calendrier. Là, mais moi, je pense que Vernon Adams Jr. est surestimé présentement. Puis c'est pas parce que c'est sa première saison. Là. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Il a quitté, il est revenu. Moi, je pense vraiment pas que c'est le gars qui peut t'amener ou ce que t'es supposé de t'amener. Par contre, si je regarde ces Rouges et Noirs d'Ottawa, c'est la même chose qu'Alain Evans qui est venu en renfort cette saison, qui a montré de bonnes choses, mais qu'il a pratiquement jamais joué de match dans la Ligue canadienne de football. Puis là, on lui dit, hey, c'est toi qu'il faut qu'il nous amène sur le chemin de la victoire, c'est toi qu'il faut qu'il aille chercher les passes de tir, etc., qu'il faut qu'il dirige cette attaque-là, dirige cette offensive-là. C'est trop pour un jeune corps arrière, et honnêtement, ça commence à être inquiétant. Là, je vous le dis, là, moi, j'ai l'impression que chez les Rouges et Noirs d'Ottawa, Marcel Desjardins, directeur général, est sur un siège éjectable parce que on a connu deux mauvaises saisons dans les deux dernières années. Et cette année, encore une fois, c'est atroce. J'ai l'impression que Marcel Desjardins est sur le bord de la porte. Ça sera pas long que du côté d'Auxègue, on va lui montrer la porte de sortie parce que si on n'est pas capable de ramener une franchise qui va plus en arriver dans le circuit, que vous avez impressionné, là, pas moins de 3 finales dans le circuit, pas moins de 3 finales à la Coupe Grey. On a remporté une là-dedans. Mais là, présentement, ça va nulle part. Et cette concession-là, et on sait à Ottawa, hein, si ton équipe n'est pas capable de gagner, tu rempliras pas tes estrades. Alors, je crois que du côté du Rouge et Noir, là, on a le droit, là, c'est le temps. Vous m'entendez? Pesez sur le piton panique.
Ouais, <c'est... rire> Toutes les situations sont pas bonnes, mais dans ce cas-ci, oui.
Ah, celle-là, c'est le temps de paniquer. Là.
Bon, excellent. C'est bien noté, mais ce soir, prenez ça relax, puis chialez pas trop. C'est à 19h le match ce soir
match
face au
centre. Numéro 2, là.
C'est
match
ça. On s'en reparle la semaine prochaine, Olivier. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Salut.